Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci aux soignants, aux infirmières, aux médecins, aux paramédicaux, à toutes celles et ceux qui travaillent pour la communauté en cette période de crise sanitaire, employés des commerces, des services de nettoyage, des transports, celles et ceux dont la profession est indispensable à l'activité, à la vie quotidienne et aux soins, alors que vous le savez, pour la grande majorité de la population aujourd'hui, le quotidien se passe entre quatre murs dans 80 pays de la planète. Le confinement pour les enfants, l'école à la maison, pour certains parents, le télétravail et pour tous, des sorties réduites au strict minimum. Alors cela peut faire sourire avec un brin de nostalgie, celles et ceux qui, à la fin du week-end, se plaignaient d'avoir trop peu de temps à consacrer à leur famille, à leur entourage. Car du temps, désormais, on en a. En cette période de pandémie, les bouleversements touchent tout le monde dans le quotidien, dans les actes les plus anodins. Les horaires, les loisirs, les habitudes ont été balayés en l'espace de quelques heures. Et le pays, mais surtout les individus, ont dû s'adapter avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins de souffrance, d'inventivité et de patience. Alors si certaines anecdotes prêtent à rire, d'autres beaucoup moins, puisque ce confinement a également pour effet d'exacerber certaines tensions, certaines violences, certaines détresses, comme en témoignent les alertes au sujet des violences intrafamiliales, qui viennent d'ailleurs de pousser les autorités françaises à lancer un nouveau numéro pour avertir les forces de l'ordre en adressant un SMS au 114. Message d'urgence pour éviter qu'à cette période de crise sanitaire ne s'ajoute pas l'impunité des tyrans domestiques. Le confinement, cohabitation familiale, organisation bouleversée, des témoignages et des conseils pour mieux surmonter cette expérience déstabilisante. Pour en parler avec nous, docteur Lélia Benoît, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à la Maison de Solène, hôpital Cochin, chercheur à l'INSERM. Également avec nous, Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste en thérapie comportementale et cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. En fin d'émission, nous retrouverons le témoignage du docteur Isabelle Marin. Elle est médecin retraitée, elle coordonne l'équipe de soutien malade famille du Covid-19 au sein de l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, où elle exerçait il y a encore 6 mois au sein du service de soins palliatifs. Rendre service, écouter, accompagner, plus que jamais, c'est primordial.
Priorité santé sur RFI.
Et une nouvelle fois au cours de cette émission, nous allons donner une large place aux témoignages, des expériences concrètes, des récits de vie, car ce que nous sommes chacune et chacun en train de vivre est totalement inédit, un événement qui impacte la planète presque entière, comme nous le soulignons chaque jour dans cette émission en termes de santé. Mais cette pandémie, elle a aussi changé la donne à la maison, au sein des familles, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Docteur Lélia Benoît, alors il y a d'un côté la poursuite de votre exercice avec des adolescents en difficulté que vous prenez en charge, et aujourd'hui, on comprend un petit peu, on essaye de comprendre pour tout le monde ce qui se passe face à une situation, on l'a dit, hein, extraordinaire, compte tenu du caractère inédit de la pandémie, du confinement aussi qui l'accompagne. Comment est-ce qu'on fait pour analyser? Comment est-ce qu'on fait pour trouver les ressources donc d'analyse et le recul indispensable quand on est soignant, quand on est expert?
Alors, je pense que l'important, c'est de rester au contact des familles et des jeunes que l'on suit. Donc, on a mis très vite en place à la Maison de Solène des vidéoconsultations. Donc, on apprend chaque jour avec les jeunes que l'on voit en consultation à distance, leurs parents, pour voir comment ils s'adaptent. Et avec eux, on apprend des conseils, on comprend comment les aider.
Alors justement, docteur Benoît, il y a ces familles, on va en reparler dans quelques instants, qui étaient d'ores et déjà traitées, mais il y a aussi maintenant des sentiments de détresse psychique au sein de familles qu'on ne suivait pas parce qu'il y a cette déstabilisation. Est-ce qu'on est, on peut dire déjà, dans une problématique de santé mentale ou on est encore dans l'émotionnel ?
Alors, chaque cas est différent, donc tout dépendra des cas, mais effectivement, nous avons des appels de familles qui jusque-là n'avaient pas consulté parce que le confinement vient les déstabiliser. Parfois, il y avait déjà des tensions avant, mais qui tenaient bon, un certain équilibre, et le confinement vient bouleverser l'équilibre et les tensions se révèlent, effectivement.
Anne-Victoire Rousselet, même question. Cette situation, vous la vivez de l'intérieur, en même temps vous l'observez. Mmh. On peut bien sûr retenir des anecdotes, des conseils simples aussi. On va pas se priver d'ailleurs d'apporter, on l'espère, un peu de légèreté. Mais on peut dire aussi que ce type de situation peut générer de vraies tensions, des tensions extrêmes.
Oui, bien entendu, puisque ça cristallise cette période-là de confinement et la promiscuité physique, ça cristallise des tensions, ça vient révéler des tensions. Le temps que vous évoquez, le temps qu'on a un peu plus pour soi et pour ses proches, nous pousse à rentrer dans la profondeur des relations et nous poser aussi des questions par rapport à notre propre positionnement, nos choix, qu'ils soient personnels, familiaux. Donc c'est un temps d'introspection difficile dans ce tourbillon de vie moderne. On a l'habitude de savoir effréner. C'est difficile de suivre le fil d'Ariane dans le labyrinthe du moi. Vous voyez, c'est pouvoir avoir, se raccrocher à ce qui habituellement nous guide, nous donne des repères. Là, tous les repères sont sur lesquels on tient habituellement, l'activité professionnelle, sociale, les liens, tout ça c'est bouleversé et on est obligé de se recentrer sur quelque chose de plus premier qui est l'unité familiale ou le couple. Et donc on est contraint d'avoir comme révélateur ce confinement qui nous pousse à voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir jusque-là. Donc ça peut être des tensions, mais ça peut aussi être des choses très positives, comme de découvrir un peu plus ses enfants, son conjoint, redécouvrir la relation et la reconstruire.
Docteur Leïla Benoît, je disais tout à l'heure, vous continuez de suivre vos patients, vos jeunes patients. Qu'est-ce que ça change, cette crise, dans votre soin, dans votre pratique de la psychiatrie ?
Alors déjà, je dois dire qu'on a la chance en psychiatrie de pouvoir travailler en parlant aux gens. Donc ça nous aide beaucoup pour travailler à distance. Et effectivement, je rejoins ce que disait Anne-Victoire Rousselet. Hein. Ça désorganise un petit peu les familles, mais on voit aussi beaucoup d'efforts, c'est-à-dire des ados qui vont se motiver, être là, participer au rendez-vous, qui essayent de s'organiser à la maison pour que les choses se passent bien. Des parents qui prennent sur eux aussi. Donc parfois, on est surpris de voir à quel point les familles prennent sur elles pour faire en sorte que tout se passe bien.
Anne-Victoire Rousselet, vous êtes aussi passée en visioconsultation ?
Oui, tout à fait. Je suis passée en visioconsultation. En dépit de mon scepticisme pour la méthode, je la trouve finalement très riche et différente. On travaille des choses et des aspects différemment, en fait, avec cette téléconsultation. Je rejoins en effet ce que disait la collègue concernant les efforts qui sont faits, et notamment les jeunes qui, quand c'est bien expliqué, arrivent à déployer d'autres formes de ressources, comme la créativité et une part un peu plus grande dans le travail domestique.
Et puis aussi comprendre que tout le monde est dans le même bateau, du coup, ça donne aussi un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe. Alors, des expériences inédites, des expériences parfois inoubliables, avec la parole aujourd'hui à des familles, et des familles nombreuses, et on commence tout de suite avec une maman, c'est Noura que l'on retrouve. Bonjour Noura.
Oui, bonjour.
Vous êtes en ligne de Saint-Denis, donc famille nombreuse, vous avez trois enfants, c'est bien ça ?
C'est ça, oui, trois enfants, bas âge.
Ils ont quel âge ?
Ils ont, alors il y a un bébé de 9 mois, un enfant de 4 ans et bientôt 6 ans.
Donc ça doit bien bouger à la maison. L'école, c'est que pour le plus grand ou c'est aussi pour...
Non, pour les deux petits. Donc le bébé reste dans la chambre, j'essaie de m'organiser au mieux. Je fais cours à mon enfant de 4 ans le matin. Donc en attendant que mon enfant de 6 ans s'occupe du bébé, il joue avec lui dans la chambre. Donc j'essaie de m'organiser avec le petit, je lui fais cours le matin et ensuite l'après-midi, je passe avec le plus grand. Donc j'essaie de m'organiser au mieux. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'ils ont beaucoup de mal à se concentrer. Mais bon, je reste à peu près une heure ou deux, pas au-delà, hein, je ne peux pas, et puis eux aussi ne tiennent pas.
Parce que tout à l'heure, je disais du temps, on en a, mais quand on vous écoute, du temps, vous n'en avez pas, vous êtes débordés.
Non, je suis débordée en réalité. C'est très difficile parce que déjà, moi, je suis dans un logement, dans un petit logement, c'est un petit F3, donc il n'y a pas beaucoup d'espace pour jouer. Mmh. Tous les enfants dorment dans la même chambre.
Ouais.
Donc, c'est très difficile. Les enfants ne comprennent pas pourquoi il fait beau et qu'ils peuvent pas descendre aller jouer. Et puis, ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas mis le pied dehors.
Mmh.
Donc, il y a énormément de tensions. Ils sont très énervés.
Est-ce que vous avez des séances d'explication? Comment ça se passe? Parce que
9
mois, on a bien compris. 3 mois, c'est compliqué. 6 ans, on peut trouver des mots?
Oui, bah écoutez, je lui explique qu'il y a un bobo qui court dehors, dans l'air, et que c'est très dangereux de sortir, et pour notre sécurité, qu'il faut rester au chaud, en sécurité à la maison.
Alors, bien
sûr, il me dit d'accord.
Vous êtes obligée de rester, mais quand même, pour faire les courses, vous faites comment?
Non, c'est mon mari qui s'occupe des courses. Mon mari va faire les courses, mais c'est compliqué parce que les drives, en tout cas dans mon secteur, sont indisponibles. Du coup, il est obligé de partir le week-end parce que lui continue à travailler. Il travaille dans le télécom. Donc, il part le samedi faire les courses. Il y a énormément de monde. Il n'y a pas de drive. Moi, habituellement, je suis une maman qui est organisée, qui fait des drives. Toutes les 2 semaines, je fais mes grandes courses.
Je vais expliquer à nos auditeurs parce qu'on est beaucoup écoutés en Afrique et en fait, les drives là-bas, ça marche pas encore.
Ah,
donc, les drives, on commande en fait les courses à distance et puis on arrive et quelqu'un ou nous chargeons la voiture et comme ça, on n'a pas de contact dans le magasin et tout est fait à distance. C'est bien ça.
Tout à fait.
Voilà, j'ai expliqué. Donc, voilà. Ce serait très pratique en cette situation. Et là, s'ils sont débordés, donc c'est votre mari qui va. Et du coup, quand il rentre, est-ce que vous avez peur qu'il vous contamine? Je m'excuse de cette question, elle est directe, mais...
Ah oui, mais totalement. Mais écoutez, moi, j'ai mis un sac plastique devant l'entrée, il pose ses chaussures dessus, je passe un spray désinfectant sur les chaussures, il se déshabille, je prends les vêtements, je les mets en machine directement avec mes gants, et puis lui, il passe à la douche, il embrasse personne, personne ne s'approche de l'entrée. Ensuite, je ramasse mon petit bout de plastique et puis je passe la javel partout, les poignées, la porte. C'est devenu un automatisme tous les jours. C'est la même chose.
J'ai une question, Noura. Est-ce que vous avez craqué depuis le début?
Oui, franchement, j'ai craqué. Je ne dors pas. Je ne dors vraiment plus comme avant. Je suis très stressée, angoissée. Ben, comme là, cette nuit, j'ai dormi à 5 heures du matin.
Donc, en même temps, vous êtes débordée, en même temps, vous êtes épuisée parce que vous ne dormez pas, vous ne récupérez pas.
Et puis moi, quand je suis stressée, je suis nerveuse et puis je ne dors pas, je ne trouve pas le sommeil, je tourne en rond. Et puis, c'est pas évident. Et puis, il y a énormément de familles dans mon cas, dans mon quartier, qui sont en suroccupation. Donc, nous, on est 5, mais il y en a qui sont 8, 9, puis des adultes, des ados. Mmh. Donc, les pauvres, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Mais on a la chance d'avoir un collectif au sein du Framboisin, dans mon quartier.
Donc, c'est une grande cité de Saint-Denis.
C'est une grande cité de Saint-Denis où il y a à peu près 200 personnes sur le collectif. Et puis, les jeunes nous aident beaucoup et on garde un œil sur les personnes âgées. Et sincèrement, c'est une force, vraiment. Ça permet de tenir le coup.
Et ça casse les clichés que certains véhiculent sur votre département. Quand on pointe du doigt un petit peu facilement, au contraire, il y a des solidarités qui s'engagent.
Énormément.
Et en respectant les règles de distance nécessaires pour ne contaminer personne.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est grâce aux jeunes du quartier, qui, eux, ne peuvent pas rester trop longtemps non plus chez eux parce qu'ils sont en suroccupation. Et bien, ils s'occupent de toutes les personnes âgées qui sont au sein du quartier, qui ne peuvent pas sortir parce que tous les magasins sont fermés. Et qu'il y a aussi le distributeur de la poste qui n'est pas alimenté en billets depuis plus de 2 semaines. Donc, on doit partir au centre-ville.
Oui, c'est compliqué.
Et c'est très compliqué. Donc, il y a énormément un élan de solidarité au sein du quartier qui est vraiment une force.
Eh ben merci Noura, ce superbe témoignage, on vous remercie. Et quand vous craquez, je sais pas quoi vous dire. Tout à l'heure, on aura un échange justement avec nos deux psys pour non pas donner des recettes magiques parce que ça n'existe pas. Quand on est dans un petit logement avec 3 enfants, on a beau nous dire comment faire, eh ben on sait ce que c'est pas facile. En tout cas, bravo pour toute cette solidarité. Et je le dis, on est à distance, j'ai le droit de le faire. On vous embrasse, Noura. On va donner la parole à un papa, un père à présent. C'est Grégoire qui est avec nous. Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-nous comment ça se passe chez vous. La vie, c'est serré chez vous aussi, hein ?
Oui, c'est assez serré. Alors, nous, on a 4 enfants dans 3 pièces. Alors, nous, on dort dans le salon. Hein. Il y a 2 enfants dans chaque pièce. qui sont assez petits, un peu les mêmes âges que les enfants de Noura. La première a bientôt 6 ans, la deuxième bientôt 5 ans, le troisième il a lui bientôt 3 ans. Et la petite dernière a 1 an et demi, voilà.
Alors, vous, c'est quoi l'option? C'est plutôt l'organisation, on a entendu Noura, même si elle est épuisée, elle tient bien son petit monde. Vous, c'est plutôt l'organisation ou plutôt le laisser faire?
Alors, nous, on a une organisation prévue, mais on la tient pas.
Il y a la théorie et la pratique, c'est ça?
C'est ça, on la tient comme ci, comme ça. Enfin, par exemple, moi, je dois sortir les deux petits le matin à entre 9h et 9h30 parce qu'on a une petite cour en bas de notre immeuble dans laquelle on sort, dans laquelle on croise personne. Enfin, on est les seuls enfants de notre immeuble. On est à Paris dans le 18e arrondissement. Hein. Et donc, on fait 15 mètres carrés donc pour les aérer un peu. On fait ça. Et là, je l'ai fait. Je crois que c'était le seul programme. Et en 2 semaines, je l'ai fait 2 fois. Hein,
donc, faut vous reprendre un petit peu, c'est ça?
C'est ça. On fait un peu comme on peut. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien.
Et pour les explications aux enfants, ils comprennent ce qui se passe?
Ils comprennent bien, oui. Les deux petits... En fait, j'étais admiratif de l'élasticité en fait des enfants qui acceptent assez bien la situation. Mmh. Les deux plus grandes se sont adaptées, même si elles posent des questions de temps en temps. Quand est-ce que ce sera fini? Et c'est vrai que parfois, il y a deux jours, je lui ai dit à la plus grande ou à sa petite sœur, je sais plus, tu te rends compte que ça fait 2 semaines qu'on n'est pas allé au parc? Et elle me dit, ah oui, tiens, j'avais pas remarqué, quoi. Donc en fait, ils sont assez élastiques, je trouve, dans leur caractère pour accepter assez bien la situation. Après, le problème, c'est qu'ils sont pas habitués à être les uns avec les autres si longtemps, quoi.
Ouais. Voilà. Donc des relations qu'ils sont en train de découvrir. Dans votre voix, on entend un joli sourire. C'est parce que vous êtes en ligne? Vous avez des moments où ça va moins bien ou vous tenez bien sur la longueur?
A priori, on tient bien sur la longueur. Vendredi dernier, j'ai envie de vous dire, c'était un peu dur le soir. Voilà. Mais ça va. Globalement, ça va. Ça va. Mais en plus, moi, je travaille à la maison en ce moment j'espère que mon patron n'écoute pas trop, mais c'est vrai que le moment est un peu plus calme. Voilà, on a un peu plus de temps. Du coup, c'est vrai que moi, je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. Donc, voilà, je vois qu'il y a quelque chose mal profite.
Vous voyez ça comme un joyeux bazar?
Voilà. Parfois, oui. Alors après, c'est pas trop le bazar non plus, mais c'est vrai que parfois, bon, ça va. On sait que nous aussi, il faut être assez élastique et pas se...
Oubliez la rigidité en ce moment. Merci beaucoup, Grégoire. Et on va prendre une autre maman qui doit bien avoir aussi la tête sous l'eau. Stéphanie avec nous. Stéphanie, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, famille nombreuse?
Oui, 4 enfants. Presque pareil que Grégoire. Donc, l'aîné a 6 ans et demi. Ensuite, j'ai 4 ans et demi, 3 ans et 1 an.
Comme on dit, vous avez bien travaillé. Comment est-ce que vous vous organisez alors?
Alors, on est assez organisé, mais c'est un peu notre tempérament aussi, et mon mari et moi. En fait, on a déjà la grande chance d'avoir déménagé avant le confinement. On était dans un 3 pièces avec 4 enfants, 75 mètres carrés, ça aurait été l'enfer. Et alors que là, on est dans un 134 mètres carrés.
Oui, donc vous avez de l'espace.
On a
là, c'est bon.
Cinq chambres, même.
Enfants peuvent courir dans l'appartement.
Un peu, et aussi, on a la chance d'avoir une cour en bas de la résidence. Ouais. Donc, mon mari, il est sort une fois par après-midi, en général. Enfin, il est en télétravail, mais il s'arrange pour les sortir. Ils font du vélo, de la drésienne en bas. Donc, ça les aère et c'est une grande chance.
Est-ce que les enfants s'interrogent sur la durée de ce qu'ils sont en train de vivre? Combien de temps va durer ce confinement ou ça ne les préoccupe pas? Ils vivent au jour le jour?
Ils vivent au jour le jour. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ne posent pas cette question. Par contre, ils me demandent, c'est vrai, quand est-ce qu'on va retourner dans le jardin de notre grand-mère ou des questions comme ça, ou quand est-ce qu'on ira voir un tel. Mais du coup, je ne peux pas leur donner de réponse claire. Mais j'ai l'impression qu'ils vivent quand même plutôt bien la situation.
Et vous prenez des précautions particulières pour ne pas leur transmettre l'anxiété? Par exemple, vous faites attention à la télévision, des choses comme ça?
Ah, de toute façon, eux, ils regardent pas la télévision. Mmh. Alors nous, on fait attention aussi, l'ordinateur est dans une pièce vraiment dédiée. Enfin, en fait, on a une pièce bureau dans laquelle mon mari peut s'isoler pour travailler. Mmh. Et eux, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc ça passe vraiment par nous, tout ce qui est information.
Et on a parlé des enfants, on a beaucoup parlé des enfants sans rentrer dans votre intimité. C'est pas compliqué toute la journée avec son époux 24/24?
Alors moi, en fait, je me suis arrêtée de travailler à la naissance du premier. Donc j'ai fait le choix d'être à la maison avec mes enfants. Donc en temps normal, je les vois déjà beaucoup.
Je parle pas des enfants justement. C'est le changement avec l'époux, aussi, parce que ça change les choses.
Oui, oui. Et ben je trouve que c'est un changement en bien. Moi, je suis vraiment très heureuse de cette période en fait. Même si c'est beaucoup de fatigue, j'ai besoin aussi de mes moments. C'est-à-dire, par exemple, le week-end dernier, j'ai senti que je craquais, ou j'ai des moments dans l'après-midi où, voilà, il y a un trop-plein et j'ai besoin de me retrouver seule un quart d'heure, une demi-heure pour me ressourcer. Ça, j'en ai vraiment besoin et je me rends compte que si j'y arrive pas, c'est dur. Mais ça, mon mari comprend et ça, à ce moment-là, il s'en occupe un peu et puis, du coup, ça va mieux. Mais sinon, le fait de voir plus souvent mon mari, au contraire, moi, je trouve que c'est agréable. Enfin, je le vois, il fait des pauses de temps en temps. On le voit au déjeuner, il m'aide pour s'il me rend des services.
C'est ça, la répartition des tâches s'est faite naturellement ?
On en a discuté. D'accord. Et puis, en fait, globalement, je m'occupe de préparer l'école des enfants. Donc, la veille au soir, j'imprime leurs feuilles. Je me penche là-dessus. Donc, ça me prend pas mal de temps. Je m'occupe du linge. Lui, il s'occupe de la cuisine beaucoup. Il me prépare des choses. On essaie de faire des choses qui durent 3 jours. Des soupes, des grosses purées.
Voilà. L'organisation, puis, quand même. Hein.
Voilà. On s'arrête pas. Et puis, on essaye aussi de communiquer un peu avec la famille. Donc, ça, c'est plus le week-end. Le ménage, on avait une femme de ménage, on n'en a plus. On essaye de faire ça le week-end en associant les enfants. Voilà, mais sinon, moi, je trouve que ça se passe plutôt bien.
Merci beaucoup, Stéphanie, et bon courage pour la suite. Hein. On vous embrasse, vous aussi. On vous retrouve, docteur Leïla Benoît. On a entendu ces témoignages, on entend plusieurs choses. D'abord, une grosse réorganisation. On entend que les enfants le vivent plutôt bien. Et puis une pudeur aussi, je trouve, par rapport à ces mamans ou papas qui disent qu'il leur arrive de craquer, mais qui n'en font pas finalement, docteur Benoît, tout un plat.
Oui, tout à fait. On voit qu'on a des situations qui sont toutes touchantes et puis avec des contextes sociaux qui sont quand même différents, donc il faut le prendre en compte. Moi, ce que j'entends, c'est quand même beaucoup de tendresse, beaucoup de plaisir quand même malgré tout à se retrouver ensemble en famille. Voilà, je pense que ce qui pourrait être un point commun à tout ce qui peut servir, c'est vraiment que les enfants effectivement vivent au jour le jour, donc ils ne sont pas inquiets de ce qui se passera dans quelques temps autant que les adultes. Par contre, quelque chose qui les rassure beaucoup, c'est la prévisibilité, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver après. Et ça, pour les trois situations, autant celle de Noura, de Grégoire, puis la troisième, avoir un petit planning, par exemple visuel, avec, avec des dessins, des coloriages que l'enfant peut avoir fait lui-même, ça permet de savoir aussi qu'est-ce qui se passe après la balade du matin. Quand est-ce qu'on fait le moment où on va faire un petit peu d'activité physique. Et ça, même pour Noura, qui a très peu d'espace, quelque chose qui rassure beaucoup les enfants, c'est de voir sur ce planning le moment où ils vont pouvoir jouer. Et puis, on peut transformer les pièces aussi, c'est-à-dire qu'on va pousser le canapé, on met les coussins par terre, et là, on peut jouer à faire des galipettes.
Voire même faire une petite cabane pour se faire une petite maison dans la maison.
Exactement. Et les enfants prendront un vrai plaisir à savoir que, par exemple, tous les jours à 4 heures, c'est le moment des galipettes ou le moment de la cabane. Et à ce moment-là, le salon se transforme. Et après, on le retransforme comme avant. C'est vraiment quelque chose qui les rassure, cette régularité, et qui leur fait plaisir. Ça devient un jeu auquel ils peuvent participer. Et de la même manière, quelque chose qui risque de mettre un petit peu tout le monde en épuisement, en surcharge, c'est de penser qu'à la maison, on doit travailler autant qu'à l'école. Si on était à l'école.
Tout à fait.
Et ça, c'est pas possible parce que c'est le métier des enfants. Et qu'en fait, on ne peut pas tout faire.
On est déjà parents.
Exactement. Et donc, il suffit de travailler, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, pas plus, et de savoir qu'il y aura plein d'autres petites activités qui font partie de la maison, comme le moment où on prépare le repas, le moment où on met la table, le moment où on débarrasse, faire la vaisselle, le ménage, etc. Tout ça, ça fait des activités qui seront mises dans le poids du temps. On sait qu'à midi 15, c'est une tâche, c'est une activité comme une autre dans la journée.
C'est une contribution, donc s'adapter, le maître mot, Anne-Victoire Rousselet, bien évidemment pas de jugement, pas de conseil impossible à tenir, il n'y avait pas de parents ni d'enfants parfaits avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait des parents et des enfants parfaits en période de crise.
Oui, c'est ça. Ça, c'est très important parce que, en effet, les parents peuvent se mettre une forme de pression inutile qui ne va pas être fonctionnelle, qui va plutôt les priver de leurs ressources et les rendre plutôt anxieux. C'est une gestion au jour le jour du quotidien avec comme objectif que on passe de bons moments ou de les plus agréables possibles. Donc la question qui est de faire le travail de l'enseignant, faire son propre travail, les tâches domestiques, ça correspond quand même à un temps complet, enfin même plus que complet, à trois temps complets, à 300% d'activité. Donc c'est important de déculpabiliser les parents qui ne peuvent pas tout faire, parce qu'en réalité, ils ne pourront pas tout faire. Donc la question est plutôt de prioriser. Comme disait le docteur Benoît, de donner une routine, un rythme aux enfants auxquels ils sont particulièrement sensibles et qui les détend, et donner aussi un espace pour l'expression, s'autoriser à dire aussi, bah tu sais, aussi pour moi c'est nouveau ce qui est en train de se passer, et donc on va s'ajuster ensemble. Et donc à ce moment-là, l'enfant qui va être dans le partage des tâches et dans le partage de la situation va peut-être être beaucoup moins dans l'opposition et davantage dans la compliance et l'observance des règles de la maison.
Et avoir de nouvelles ressources pour s'autonomiser.
Exactement, parce que tout ce qu'on décrit, les tâches ménagères, c'est de l'éducation aussi. Hein.
Tout à fait, on est en train d'apprendre à la maison aussi.
On apprend beaucoup de choses à la maison. Les recettes de cuisine, faire des choses avec du bricolage avec papa ou avec maman, de la cuisine, du ménage, tout ça, c'est un apprentissage fondamental pour les enfants. Donc, même si les tables de multiplication sont pas sues comme il faudrait peut-être, ou parfaitement, bah, on laissera l'enseignant peaufiner le travail. Et le travail d'éducateur de parents, qui est premier, peut être investi totalement.
D'autres témoignages tout de suite. Hein. On va prendre en ligne des appels d'auditrices.
Priorité santé sur RFI.
Et pour commencer, on va traverser l'Atlantique pour rejoindre le Canada, Toronto, dans l'Ontario. Bonjour Ingrid.
Oui, bonjour Caroline.
Il est tôt chez vous, non?
Oui.
est-ce que le soleil s'est levé sur Toronto?
Non, pas encore.
Alors racontez-nous comment ça se passe chez vous, situation de confinement, situation de travail, comment ça se passe en ce moment dans cette province canadienne?
Bon, du point de vue des écoles, tout s'est arrêté. Et il y a pas mal de parents aussi qui n'ont pas le choix de rester confinés. Et aussi, il y a des parents qui se disent, ben, avec les enfants à la maison, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, je pense que c'est le moment pour tout le monde de devenir très créatif en ce moment.
Et en ce moment, chez vous, à la maison, il y a combien de personnes?
Je vis avec mes deux sœurs et deux de mes filles, mes deux filles alors.
Et alors, qui travaille en ce moment? Qui sort en ce moment?
Ce sont mes sœurs parce qu'elles sont dans le domaine de la santé, et particulièrement dans les maisons de retraite. Et quelque part, moi, ça m'inquiète parce que finalement, c'est elle la plus exposée.
Tout à l'heure, on avait aussi une auditrice qui nous disait que, justement, un témoignage que quand son époux rentrait à la maison, il passait au nettoyage. Vous, c'est pareil? Vous êtes inquiète de qu'il y ait le virus qui revienne à la maison?
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une de mes sœurs qui a reçu deux patients atteints du corona de son côté, même si c'est peut-être pas dans le même département, mais c'est quand même dans le même espace, on va dire comme ça. Et au jour le jour, elles sont ce qu'on appelle screenées pour leur température, pour savoir si elles ont
des symptômes.
C'est ça, donc même à la maison, une fois qu'elle rentre, et on a comme une petite salle de bain où elles se lavent les mains, etc., changent tous leurs vêtements et de travail, etc. Donc ça ne rentre techniquement pas plus loin que au fond de la maison, là, on va dire ça comme ça. Et puis ce sont les mesures qu'on prend de notre côté, mais en ce qui a trait les maisons de retraite, les hôpitaux sont en train de transférer certaines personnes et dans les maisons de retraite de façon à décongestionner un peu et puis voir comment mieux gérer la crise.
Ingrid, est-ce que vous avez une question à poser aux psychologues et psychiatres qui sont avec nous aujourd'hui en ce qui concerne vos deux filles, 3 et 5 ans, dans le quotidien avec elle?
Ma question, c'est... Alors, je pense que je n'ai pas utilisé les mots justes pour expliquer ce qui se passe. Parce que moi, je pense que je suis en train de créer une psychose. Mm-hmm. Parce que l'après-midi, on s'en va faire du vélo, comme autour de la maison, etc. Et dès qu'elle va arriver quelqu'un, et puis c'est la panique totale, elle lâche tout, et puis elle est comme « Maman, et comme mm-hmm. Et y a des gens qui arrivent. » Et moi, je me dis... la psychose, je pense qu'elle est déjà là. Comment on va gérer après?
D'accord. Comment COVID. En même temps les protéger sans trop les c'est inquiéter ça. Anne-Victoire Rousselet, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ingrid pour qu'elle ait justement ces mots qui passent bien auprès de ses petites filles de 3 et 5 ans?
Le plus simple, c'est de leur expliquer donc, ce qu'elles peuvent évidemment comprendre et de leur dire que oui, on se protège, mais maman est là et maman veille et maman vous arrêtera si, quand on fait du vélo, vous êtes trop près, etc. Mais c'est pouvoir décharger l'enfant de sa propre anxiété en la prenant en charge, en étant l'espace rassurant qui va permettre à l'enfant de continuer à être dans son innocence et dans son apprentissage de la vie. C'est toujours cette question d'être l'adulte rassurant qui protège et ne pas les laisser être autonomes sur la gestion de ce stress. Donc c'est important peut-être d'en discuter avant la sortie et de dire voilà, on va sortir, moi je surveille et vous amusez. Et d'avoir ce cadrage-là.
Tant que maman vous laisse sortir, ça veut dire qu'elle est en train de vous protéger.
Exactement,
ça c'est bien.
C'est bien comme ça. Ah ben, ça fait plaisir de vous entendre sourire à l'appareil. Eh ben, on vous embrasse, Ingrid. Je crois que vous allez vous recoucher là, non?
Non, c'est déjà fait, je suis déjà réveillée.
Et bon, alors, bon petit déjeuner à Toronto. On vous embrasse. Merci. On va partir tout de suite pour le Tchad, rejoindre Judita. Bonjour Judita. Judita, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je vous reçois.
Ah, vous êtes loin, Judita. Rapprochez-vous de nous. Voilà. Alors, on écoute votre témoignage. Vous êtes revenue dans la famille depuis que vous avez appris qu'il y avait le virus pour être auprès des vôtres. C'est bien ça?
Oui, j'avais quitté la famille il y a déjà 3 ans pour regagner le nord et un peu continuer les études également là-bas, comme il y avait un peu de malentendus avec la famille. Mmh. Puis aux mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre le COVID-19, je me suis trouvée un peu enfermée à la maison, comme les universités et les activités étaient toutes fermées. Mmh. Je me suis trouvée un peu triste de mourir à ce genre de trucs. Et j'avais décidé de rejoindre la famille en Djamena. Mmh. Et en rejoignant ma famille, j'avais vu une unité qui était née entre moi et la famille et précisément avec la sœur dans le test. On avait un peu des malentendus entre nous.
Oui.
Donc, selon moi, le COVID-19, par rapport à celle-ci, on a pu quand même trouver un lien d'approche. Un moyen de faire entre moi et ma famille.
Vous avez l'impression que vous avez résolu vos problèmes et maintenant, comment ça se passe dans la famille? Même si vous êtes tous ensemble sans possibilité de sortir, ça se passe bien?
Oui, c'est ça.
Vous vous sentez comment aujourd'hui?
Je me sens un peu rapprochée de la famille que j'avais regagné, que j'étais au nord et laissé la famille à seul.
Et aujourd'hui, vous faites attention aux gestes barrières, Judita?
Oui, on respecte les moyens d'hygiène et les moyens que le gouvernement avait pris de ne pas sortir en dehors de la maison, de la concession. On arrive un peu à respecter.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Judita. Docteur Leïla Benoît, Lélia Benoît, ce témoignage qui... assez inattendu, finalement, le Covid-19 a rassemblé une famille et a rétabli une forme d'équilibre.
Oui, inattendu et pas si rare que ça finalement. On a plusieurs expériences comme ça de soit de jeunes effectivement qui étaient déjà partis, qui travaillaient à l'extérieur, qui sont revenus au domicile des parents pour passer le confinement ensemble, soit parfois à un autre moment de la vie, quand les parents sont âgés, d'avoir certains de leurs enfants qui sont venus chez eux pour être confinés avec eux, pour pouvoir les accompagner sur les tâches ménagères. Donc c'est des beaux moments de rassemblement, effectivement.
Avoir un beau temps et de la qualité de relations ensemble. Aïssa sur Facebook nous dit « Le confinement ne me pose pas de problème tant que ça, mais c'est pour mes petits frères, ils sont tellement habitués à courir partout toute la journée avec leurs amis que rester en place, c'est insupportable pour eux. » Anne-Victoire Rousselet, c'est vrai qu'à certains âges, on a vraiment besoin de bouger, voire même si on ne bouge pas, ça fait garder les tensions à l'intérieur.
Et bien sûr, donc l'idée c'est d'organiser, c'est je pense une des principales difficultés, puisque comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, les enfants sont sous plastique, quand on leur explique, ils s'adaptent relativement facilement, et c'est plutôt nos stress qu'on doit gérer, mais en revanche, la dépense physique, elle, reste importante, donc on peut organiser des petits ateliers sport à la maison. Alors quand on a une cour, c'est formidable, quand on a un jardin pas loin et qu'on peut se tenir à distance, c'est encore mieux, mais sinon, on peut organiser des petites activités gym à la maison qui vont être un peu cadrées, ou même si on a des enfants à partir de 10 ans, leur confier cette charge de « tu vas faire la gym pour toute la famille ».
Coach familial.
Oui, voilà. Et donc, ça fait un lien supplémentaire, une activité et une occasion de se découvrir différemment et surtout de dépenser un peu d'énergie.
En tout cas, les relations sont bouleversées, on l'a bien compris. Alors, ouais. Il y a des séparations là qui peuvent être complexes à gérer sur la durée. On en a parlé avec les personnes âgées lors de précédentes émissions. Et puis, pour les ados, docteur Leïla Benoît, être séparé de ses amis, bah, c'est loin d'être anodin. Certains parents, des fois d'ailleurs, minimisent l'importance de cette relation d'amitié chez les adolescents. Ça peut être difficile, mais heureusement, il y a des moyens numériques.
Oui, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a deux extrêmes qu'on peut voir. Hein. Soit les ados qui vont être toujours collés aux copains sur le portable toute la journée, soit certains qui étaient déjà un petit peu mal à l'aise et qui vont s'isoler en fait pendant le confinement, moins répondre aux messages, être moins en lien. Donc nous, quelque chose qu'on conseille beaucoup, c'est de le laisser un peu se socialiser avec d'autres amis et du coup d'autoriser quand même les écrans à ce moment-là avec des vidéos. C'est encore mieux en vidéo d'ailleurs qu'en message, et même de proposer, par exemple, qu'il y ait au moins un soir par semaine où c'est possible de passer 2 heures, 3 heures en vidéo avec les copains, un peu comme si on faisait une sortie. Voilà, et à ce moment-là, de respecter ce temps-là, de laisser l'ado tranquille dans sa chambre s'il y en a une, ou en tout cas dans un espace qui est le sien, pour qu'il puisse être juste avec ses copains comme s'il était dehors.
Comme s'il était dans sa bulle d'adolescence. Alors, situation sanitaire qui a, dans certains cas, un effet vraiment de coupure, d'isolement, séparation, extrême solitude. Et puis, on a évoqué ce sort des personnes âgées isolées. Et bien évidemment, le sort des patients, puisqu'en cette période d'épidémie, les visites à l'hôpital sont absolument interdites. On le comprend bien pour les raisons de contagion. Et c'est là que vous intervenez. Bonjour, docteur Isabelle Marin.
Bonjour.
Depuis octobre, vous êtes retraitée. Vous exerciez jusque-là comme médecin à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis au sein du service des soins palliatifs. Et depuis 15 jours, eh bien, vous avez repris du service au sein de l'hôpital. De quelle façon, racontez-nous?
Alors, c'est l'équipe mobile des soins palliatifs. Et là, maintenant, nous sommes une équipe qui s'appelle équipe d'aide et de soutien aux malades et familles. Et nous essayons de faire le lien avec les familles qui sont confinées. Et les patients et leurs médecins. Et donc, en fait, on s'est équipé avec des smartphones et on fait des WhatsApp à plusieurs, donc plusieurs familles, plus le malade. On fait des photos aussi. Là, par exemple, je viens de faire une photo d'un patient qui est hospitalisé pour l'envoyer dans le foyer où il habitait, pour qu'il ait un peu des nouvelles.
Docteur Isabelle Marin, vous coordonnez donc cette équipe soutien malade-famille. Il y a ces photos, il y a aussi des objets qui peuvent arriver jusqu'aux patients?
Alors, les familles apportent des objets à leur téléphone, en particulier leur chargeur, parce que ça, c'est des problèmes très, très triviaux, mais très importants. Mm-hmm. Et alors, ils les apportent à la sécurité. Et la sécurité, à ce moment-là, appelle un système de bénévoles qui s'appelle les facteurs de petit bonheur, et qui sont là de 10h à 19h et qui apportent les objets dans les services. Et c'est les services qui les rentrent, bien sûr, chez les malades. Donc, les bénévoles ne rentrent pas chez les malades. Mais comme ça, ils peuvent avoir les objets qu'ils n'ont pas pu emporter parce qu'ils sont arrivés en urgence. Et je vous dis, c'est essentiellement téléphone chargeur.
Et ces bénévoles, vous les avez trouvés comment ?
Ça, c'est des voisins de Saint-Denis. Moi, j'habite à Saint-Denis et il y a plusieurs listes de mailing autour de la MAP, autour de la librairie, autour de... Et on a énormément de gens qui sont portés bénévoles pour l'hôpital. Donc, il y en a 10 donc, qui sont chargés de d'extraire les facteurs. D'autres nous font à manger. Et donc, il y a tout un système pour nous faire à manger tous les jours parce qu'on court beaucoup. Voilà.
On voit l'importance de la communauté hein, qui s'organise. Pour les cas les plus graves, docteur Isabelle Marin, comment est-ce que ça se passe, par exemple, pour les visites familiales ?
Alors, quand les malades sont vraiment graves et que les médecins du service craignent qu'ils puissent mourir, les visites sont autorisées. Alors, chez nous, on a pris la règle que ça soit 2 par famille et pendant 30 minutes. Mmh. Donc, on leur envoie une autorisation pour qu'ils puissent venir. À la sécurité, quand ils arrivent à la porte, on nous appelle, donc on les accompagne jusqu'à au service, dans la chambre du malade, on les aide à s'habiller, on leur explique un peu l'état du malade, et puis éventuellement on reste avec eux pendant la visite, parce que quelquefois ils veulent pas, mais la plupart du temps ils sont un peu terrorisés.
Ils ont besoin d'aide.
C'est compliqué de parler avec quelqu'un qui va pas bien. C'est compliqué quelquefois de voir quelqu'un qui est inconscient, donc ils ont besoin qu'on soit là, oui.
Et ils sont protégés, ils ont toutes les protections.
Ils ont un masque.
Et vous avez tout ce qu'il faut de ce côté-là ?
Alors, pour l'instant, ça va. Mmh. Pour l'instant, ça va. C'est pour ça aussi qu'on limite beaucoup, qu'on fait pas. Mais c'est aussi pour le confinement qu'on limite. Mmh. Alors, ce qu'on fait aussi, parce que, par exemple, là, on a beaucoup de prières, c'est que les autres membres de la famille, ils sont en WhatsApp on explique aux familles, on leur fait appeler les autres membres de la famille pour qu'ils soient aussi en visioconférence avec ceux qui sont dans la chambre.
Pour qu'il y ait une communion. Anne-Victoire Rousselet, sur la question de la protection, quand on a préparé cette émission, on a appris que vous-même, vous aviez contracté le Covid-19 et on a entendu des mesures, bien sûr, pour éviter la contamination. D'ailleurs, tout à l'heure, une maman demandait des conseils à ce sujet. Je crois que vous avez quelque chose à dire à ce sujet.
Oui, c'est réellement un facteur de stress quand même et d'anxiété supplémentaire pour les soignants de ne pas avoir dans certains services ce qu'il leur faut. Alors il y a les soignants à l'hôpital et puis il y a les soignants de ville avec tout est contingenté. Donc vous n'avez pas ce qu'il vous faut en fait du jour au lendemain, vous ne savez pas si vous allez avoir de quoi travailler. Et donc ça c'est un stress supplémentaire en plus du Covid. En plus de la question de on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, ben on ne sait pas si on va pouvoir travailler dans des conditions sécures. Et en réalité, les soignants ayant un tel dévouement pour les soins et pour la population vont quand même au travail, parfois sans protection. Et c'est vraiment quelque chose qui me paraît compliqué à gérer et encore une fois une charge supplémentaire au niveau de l'anxiété et des qualités, des conditions de travail, quoi.
Docteur Isabelle. Isabelle Marin.
Enfin, chez nous, on est pourtant un hôpital général de la banlieue 93, donc on est très plein. Hein, on a 180 lits Covid, on a une réa, je ne sais plus combien il y a de réa. On a des cas assez graves, je pense, dans la banlieue, dans l'Île-de-France, c'est un peu un endroit un peu très chaud. Mais on a les masques.
Alors,
c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Par exemple, on nous avait dit qu'il n'y avait pas assez de surblouses. Et donc, on a essayé de les économiser. Puis, en fait, on nous dit qu'en fait, ceux qui les amènent nous disent qu'il y en a assez. Donc, c'est vrai que tout n'a pas été parfaitement bien organisé au début, sûrement. Chez nous, en tout cas, il y a des masques, il y a des surblouses. Pour l'instant, on ne manque pas. Alors, c'est en tension, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de peur, surtout. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui mettent des masques dans la rue, mais qui, dès qu'ils parlent, ils les enlèvent. Donc, ça ne sert à rien du tout. Il faudrait mieux ne pas mettre de masque du tout et puis de nous les laisser. Enfin, déjà, c'est nous. Parce que même à la télé, on les voit. Hein, ils les enlèvent, les masques, quand ils parlent. Vous voyez ? Donc,
Il faut, quand on en a, on reste rigoureux. J'ai une question à vous poser. Elle est douloureuse, docteur Isabelle Marin. Question qu'il faut aborder parce que ça fait aussi partie de la vie à l'hôpital, de ce qui s'y passe tous les jours. En cas de décès, comment ça se passe avec ces patients Covid-19 ?
Alors, en cas de décès, au moment du décès, si la famille peut venir dans l'heure, ils peuvent venir, c'est chez nous, hein, je vous parle de chez nous.
Bien sûr.
Ils peuvent venir dans le service et dans la chambre du malade, toujours habillé, pour voir le malade dans son lit. Mmh. Après, il est emporté par les agents de la mortuaire, qui ont été renforcés, hein, on en a recruté deux de plus. Et il est à la chambre mortuaire, enfin il est, oui. Et au moment de la mise en bière, normalement, il est permis de voir les patients au moment de la mise en bière. Mais, en fait, pour des raisons de logistique, c'est pas forcément possible. Ça dépend des pompes funèbres. Il y a des pompes funèbres qui acceptent de le faire et il y a des pompes funèbres qui n'acceptent pas de le faire parce qu'ils ont peur de la contagion. Donc, nous, on prévient les familles que probablement, ils pourront pas voir le défunt. C'est pour ça qu'on les autorise à les voir avant.
Auparavant, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre témoignage, docteur Isabelle Marin, et bravo, hein. Surtout beaucoup de courage à tous ces facteurs des petits bonheurs et à l'équipe de l'hôpital de La Fontaine, également de la Maison des Femmes juste à côté qu'on connaît bien ici à Priorité Santé. Merci beaucoup. On a parlé de la famille, des liens différents tissés dans cette contrainte, dans l'urgence. Parfois, ceux qui se redécouvrent, c'est pas fini hein, le confinement. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. On va terminer sur des conseils. Il nous reste assez peu de temps. Du concret, peut-être du positif à chacune. Je vais te demander en quelques 30 secondes chacune peut-être, Anne-Victoire Rousselet d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent dans le monde pour comprendre ce qui se passe et essayer de transformer cette épreuve en expérience?
Alors, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un temps aussi, une place pour soi, pour l'introspection. Je sais qu'avec les enfants, c'est compliqué, mais c'est important de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer chez soi, puisque ça va nous changer. Il faut avoir conscience qu'on vit une crise et qu'elle va nous changer. Mais il faut l'accueillir avec le plus de sérénité possible, en ayant une place pour le questionnement. De chaque crise, comme la crise d'adolescence, par exemple, on n'en sort pas forcément moins bien. Au contraire, hein, on apprend beaucoup sur soi. La question, c'est d'être à l'écoute de son rythme naturel. Je pense à la question du veille-sommeil, d'être à l'écoute aussi de son rythme physiologique, de ce dont on a besoin en termes d'activité physique, de temps pour soi, et de structurer le temps pour avoir un espace pour soi, un espace pour l'autre, un espace pour l'échange et pour une phase d'épanouissement tout à fait propice. Hein. On vient de passer cette phase de sidération où on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Les gens sont un peu sonnés.
Et là, maintenant, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Docteur Laïla Benoît, il nous reste peu de temps, une trentaine de secondes. Transformer l'épreuve en expérience.
Exactement. Tous les grands défis nous confrontent aux besoins de nous réadapter. Et je pense que presque comme un mot de philosophe, on pourrait se dire le confinement, il faudrait qu'on s'y adapte comme si ça durait toujours. Comme si on devait trouver un équilibre.
C'est dur là ce que vous dites.
C'est dur ce que vous dites. C'est vrai. Mais comme si quelque part ça devait durer très longtemps et que malgré tout, on devait apprendre à être heureux, à trouver des manières de vivre. Et c'est comme ça qu'on traversera les choses de la meilleure manière.
On vous remercie toutes les deux hein, d'avoir participé à Priorité Santé, d'avoir répondu à cette invitation. Docteur Laïla Benoît, j'ai bien réussi à le dire, Laïla, psychiatre à la Maison de Solène, hôpital Cochin, et à vous Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. En conclusion, ce témoignage d'Abdoul, il vit à Cancan en Guinée et il écrit sur la page Facebook de l'émission « Il faut bien reconnaître que le confinement est source de rapprochement. Ça faisait plus de 7 ans que je n'avais pas passé plus de 3 jours aux côtés de mes parents. Pour moi, rien n'est plus magnifique que d'être avec ma famille en ce moment. Ça fait chaud au cœur. » Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Assez tous, Samak et Ophélie Lassen, Caroline Filliette, Tania, Didier Bleu, Didier Chérouse, on est tous ensemble. Demain, dans Priorité Santé, nouvelle émission consacrée à l'épidémie de Covid-19 en Afrique. État des lieux, avis des médecins, riposte nationale, prévention, réponse communautaire. À demain, d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains. Et si vous êtes dans une zone de confinement, restez chez vous.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous, à chaque étape. Autour de la question.